BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à toutes et à tous, willkommen, bienvenue dans Vue d'Allemagne, un Vue d'Allemagne qui revient sur le lancement du commandement spatial de la Bundeswehr. Pas question encore d'attaquer au-dessus de nos têtes, mais le sujet est sérieux, on tente d'y voir plus clair ensemble. Dans ce magazine aussi, des nouvelles de Nord Stream 2, le gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, un coup d'œil à la campagne pour les élections fédérales du mois de septembre, et puis un grand reportage aux États-Unis, à la frontière avec le Mexique, où les migrants continuent d'affluer, la situation humanitaire ne s'améliore pas. Voilà pour le sommaire, sans plus attendre, Los Gates, c'est parti. Son nom fait un peu science-fiction, mais elle sent très bien réel. Le Weltraumkommando de la Bundeswehr, l'armée allemande, est officiellement en fonction depuis cette semaine. Un centre dont on pourrait traduire le nom en français par commandement spatial de la Bundeswehr. Il est basé dans l'ouest du pays, au centre d'opérations aériennes de l'armée de l'air. Alors ce commandement, pourquoi ? Eh bien, pour surveiller l'espace, comme le laisse deviner son nom. Pas que les Allemands aient peur de se faire attaquer par les petits bonhommes verts au-dessus de nos têtes, mais en fait, ce centre est lancé en tout premier pour surveiller les satellites au-dessus de nos têtes et du ciel allemand. Il y en a quelques 2500 autour de la Terre. Ce sont des satellites qui servent pour des activités civiles quotidiennes, nos GPS, nos téléphones ou les prévisions météo. Et puis il y a aussi des satellites militaires. On s'en sert pour détecter l'envoi de missiles ou l'avancée de troupes en cas de conflit armé. Et ainsi, si les satellites d'un pays venaient à être coupés, cela pourrait paralyser des pans entiers de son économie et de ses infrastructures. Dès 2007, la Chine lançait d'ailleurs un missile contre un satellite météorologique. Un exercice, mais qui prouvait déjà sa capacité et son développement militaire dans ce domaine. Le centre allemand qui vient d'ouvrir doit donc servir à la surveillance et à la protection de ces satellites. Les agents de ce centre feront aussi de la surveillance des déchets au-dessus de nos têtes, car il y a des milliers de débris spatiaux dans l'espace. Des morceaux de satellites, des outils ou des morceaux de fusées qui pourraient faire des dégâts s'ils tombent sur Terre ou touchent des satellites. Pas question, en revanche, pour l'instant, d'attaques prévues ou guidées depuis ce centre, mais cela pourrait se développer à l'avenir. Lors d'un sommet fin 2019, l'OTAN avait d'ailleurs déclaré que l'espace devenait une zone opérationnelle à part entière.
DW.
On reste dans les questions diplomatiques avec Nord Stream 2, ce gazoduc géant de plus de 1200 km de long qui doit permettre d'acheminer du gaz naturel russe jusqu'au marché européen via l'Allemagne. On vous en a parlé souvent dans cette émission, notamment parce que les États-Unis étaient opposés à sa construction. Des sanctions économiques contre les entreprises participant à sa construction avaient été prises en début d'année encore, faisant craindre aux partisans du projet que celui-ci n'aboutisse jamais. Mais finalement, les États-Unis ont changé de ton au mois de mai. L'administration américaine annonçant qu'elle renonçait à sanctionner l'entreprise chargée d'exploiter le gazoduc. Et son président, le président de l'entreprise qui assure la construction, assure désormais que le chantier pourra être achevé cet été. D'ici à la fin août, a dit Matthias Warning au quotidien allemand Handelsblatt. Il dit même désormais espérer que l'ouvrage sera opérationnel d'ici la fin de l'année 2021. Le sujet est à l'agenda d'Angela Merkel lors de sa rencontre avec Joe Biden ce jeudi. The Star Spangled Banner, la bannière étoilée, hymne national des États-Unis dans Vue d'Allemagne, où on revient en Allemagne avec la campagne pour les élections fédérales du 26 septembre qui se poursuit. La liste des partis autorisés à prendre part au vote vient d'ailleurs d'être publiée. Résultat, 53 partis peuvent prendre part au vote sur les 88 qui avaient fait les démarches pour y concourir. 9 partis déjà représentés au Bundestag ou au niveau régional, au niveau fédéral en Allemagne, étaient exempts des conditions d'examen, qualifiés d'office. Les autres devaient prouver leur volonté sérieuse de participer à la vie politique et de représenter le peuple allemand. Car la commission allemande n'examine pas les programmes en tant que tels, mais regarde par exemple le nombre de membres d'une organisation, ses statuts légaux et ses représentations régionales. Les positions de fond, les positions politiques ne jouent donc pas un rôle déterminant. Ce sont les autres critères dont je parlais qui jouent davantage dans le choix de la commission. Ainsi, le parti Der Dritte Weg, la troisième voie, pourra participer, même s'il est classé comme parti d'extrême droite par l'Office fédéral de protection de la Constitution. D'autres partis, comme le Parti communiste allemand, ont été refusés car ils avaient présenté leur compte trop tard, par exemple. Sur les 44 partis dits « petits » qui constituent la liste, on retrouve aussi d'autres mouvements, comme le Parti du changement des végétariens et des végétaliens, le Parti européen Amour ou encore le Parti du jardin. Ça ne s'invente pas et ce n'est pas une blague. Les sondages donnent à l'ensemble de ces 44 mouvements quelques 8% des intentions de vote le 26 septembre prochain. On ne l'entendra plus en live, Esther Bejarano, l'une des dernières survivantes d'Auschwitz, est morte dans la nuit de vendredi à samedi dernier à 96 ans. Esther Bejarano était connue notamment parce qu'elle avait joué dans l'orchestre des femmes d'Auschwitz. Obligée par les nazis à jouer de l'accordéon pour apaiser les prisonniers qu'on envoyait à la mort dans le plus grand camp de concentration et d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle-même avait été déportée à Auschwitz en avril 1943, puis transférée en novembre, quelques mois plus tard, au camp de Ravensbrück. Après la guerre, elle vivra près de 15 ans en Israël avant de revenir en Allemagne. Elle racontera alors inlassablement son histoire, notamment dans les écoles, pour lutter contre l'extrémisme. Avec sa fille et son fils, Esther fonda aussi le groupe Coïncidence au début des années 1980. Avec des chansons du ghetto, juives et antifascistes. Elle s'est aussi produite plus récemment avec un groupe de hip-hop, Microphone Mafia, dans toute l'Allemagne. Elle restera toujours dans nos cœurs, a écrit le président de la République allemande, Frank-Walter Steinmeier, dans un message de condoléances à ses enfants il y a quelques jours. Il parle d'une personnalité courageuse qui s'est jusqu'à la fin engagée en faveur de ceux qui ont été poursuivis par le régime nazi.
Jeden Tag klappt mein Fuß, jeden Tag auf dem harten Brug. Deine Fies in die Schier ist der Gang auf dem Bug schon geworden mit.
Vue d'Allemagne, deuxième partie avec un reportage à la frontière américano-mexicaine cette semaine. Encore un, me direz-vous, ce n'est pas le premier dans cette émission. Mais si beaucoup espéraient que la situation dramatique des personnes migrantes s'améliorerait avec Joe Biden à cette frontière, ce n'est pas ce qui semble se passer. Écoutez ce chiffre, près d'un million de clandestins ont été interceptés à cette frontière depuis le mois d'octobre dernier. Des personnes venues du Mexique, mais plus largement aussi de toute l'Amérique du Sud. Manque de générosité des États-Unis ou au contraire laxisme dans la gestion de cette question, le débat divise toujours la société américaine sur place. En Californie et en Arizona, c'est un reportage d'Eli Courboli.
De México y Estados Unidos, hay una crisis, pero de humanidad.
Ils sont une cinquantaine à s'être réunis le long de la frontière qui sépare San Diego aux États-Unis à Tijuana au Mexique. Au son d'une prière bilingue diffusée par haut-parleurs de l'autre côté de la frontière, ils sont tous venus réclamer du changement dans la politique migratoire américaine. Après quatre années de Donald Trump et sa tolérance zéro, le changement de cap annoncé par le nouveau président Biden pendant sa campagne se fait toujours attendre. Pedro Rios, directeur d'une ONG d'aide aux migrants, dresse un bilan peu reluisant des quatre dernières années et s'impatiente de voir la situation évoluer.
Ils sont des milliers à attendre au Mexique. Tous ces gens aimeraient déposer une demande d'asile, mais n'ont toujours pas pu le faire. Justement, à cause de certaines politiques mises en place par l'administration Trump et que l'administration Biden continue d'appliquer.
Si le comté de San Diego ne connaît plus l'affluence des années 90 et 2000, il n'est pas rare d'apercevoir des petits groupes tenter l'assaut de ce mur de plus de 10 mètres, avec pour tout équipement des petites échelles de fortune faites de barres à mine soudées entre elles la plupart du temps.
Here's another ladder. This
Vous voyez encore une autre échelle. Celle-ci a sûrement été utilisée pour grimper par-dessus le premier et le deuxième mur de la frontière. Vous pouvez voir les crochets au sommet de l'échelle pour permettre de s'accrocher sur le haut du mur.
Depuis 2016, plus de 600 km de nouvelles barrières, souvent en remplacement d'anciennes plus vétustes et moins hautes, ont été construits. À San Diego, un système de double mur complique désormais la tâche des candidats à l'immigration. En effet, une fois le premier mur côté mexicain franchi, les migrants doivent encore traverser un no man's land large d'une cinquantaine de mètres avant d'escalader un deuxième mur, celui-ci haut de 10 mètres, avant d'arriver enfin aux États-Unis. Pour éviter ça, ils sont nombreux à se diriger vers des zones plus reculées, moins sécurisées, mais aussi beaucoup plus dangereuses. Au croisement de la Californie, du Mexique et de l'Arizona, Yuma est une de ces zones. La température y dépasse régulièrement les 45 degrés, mais c'est pourtant devenu un des principaux points de passage de cette immigration illégale.
Si on regarde nos chiffres sur les dernières 24 heures, nous avons intercepté 389 migrants.
Vincent Douleski, officier de la Border Patrol de Yuma en Arizona.
Les ressortissants des pays qui ont des accords avec le Mexique, on peut les expulser directement de l'autre côté de la frontière. Mais pour certaines nationalités, ce n'est pas possible. Alors, on les enregistre, on les garde 72 heures, le temps de confirmer leurs informations, et puis on les confie à la police aux frontières.
La Border Patrol de Yuma a arrêté plus de 40 000 migrants depuis le début de l'année. Enfin, arrêter, c'est un bien grand mot. Mis à part les ressortissants mexicains qui fuient les douaniers, se sachant sous le coup d'une expulsion immédiate en cas d'arrestation, les nationaux de nombreux autres pays d'Amérique latine se laissent cueillir volontairement par les douanes une fois aux États-Unis. En effet, brésiliens, cubains, vénézuéliens, salvadoriens, ils sont tous autorisés à déposer une demande d'asile puis à rester dans le pays le temps que celle-ci soit traitée, mais pour ce faire, il faut qu'ils se fassent légalement enregistrer par la douane. À Yuma, le Regional Center for Border Health accueille tous ces migrants à l'issue de leur détention. Ancienne sénatrice démocrate d'Arizona et désormais présidente du centre, Amanda Aguirre.
C'est ici qu'on collabore avec la police aux frontières et la sécurité intérieure pour répondre à la crise des migrants et à l'afflux de réfugiés venus chercher l'asile aux États-Unis. On s'assure qu'ils soient bien relâchés et qu'ils soient testés pour le COVID-19.
Isabella arrive du Venezuela après un périple de 5 jours. À bout de force, la sexagénaire explique les raisons qui l'ont poussée à entreprendre cette dangereuse traversée.
Mon pays est une dictature. On n'est pas libre de s'exprimer ni de faire valoir nos droits. C'est très difficile de trouver à manger. Pareil pour la santé, pour les médecins. Dans ma ville, il n'y avait même pas de médecin pour la COVID.
2 heures après leur arrivée, Isabella et la vingtaine de migrants présents ce jour grimpent dans le bus direction Phoenix. Depuis le mois d'octobre dernier, près d'1 million de clandestins ont été interceptés à la frontière américano-mexicaine, un chiffre plus atteint depuis 2006. Attendue sur le sujet lors de sa première visite à la frontière le 26 juin dernier, la vice-présidente en charge du dossier, Kamala Harris, n'a apporté pour le moment aucun élément de réponse supplémentaire. Élie Courboulet à Yuma pour la Deutsche Welle.
Reportage à retrouver dans le podcast de Vue d'Allemagne dans la médiathèque sur notre site www.dw.com/français et via l'application aussi en cliquant sur l'onglet Allemagne. Dans les semaines à venir, votre magazine prend quelques vacances d'été en Allemagne. On se retrouve en août pour de nouveaux numéros, des reportages et la dernière ligne droite dans la campagne des élections fédérales de fin septembre. D'ici là, alles Gute, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Tchuss !